Bonjour à tous, ici Yacine, vous écoutez Radio Campus Paris 93.9, c'est Le Gratin. Donc je suis toujours à Angoulême, dans les rues, là je me dirige vers l'hôtel de ville, dans la salle de presse, où j'ai rendez-vous avec Simon Hanselman, auteur australien, et son éditeur. On va parler de sa série Meg Morgan Hall. A tout de suite. Donc je suis à la salle de presse de l'hôtel de ville, donc je suis en compagnie de Eldon Guillermo.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Simon Hanselman.
Bonjour.
Et aussi en compagnie donc de Renaud qui va assurer la traduction.
Bonjour.
Une première question, Eldon Guillermo, est-ce que tu peux me présenter Simon Hanselman et pourquoi vous avez eu envie de le faire venir à Angoulême?
Simon Hanselman, c'est un auteur qu'on a découvert il y a 2 ans, comme un peu pas mal de gens, je pense, avec Internet, l'ouverture de son Tumblr où il a publié les premières pages, les premières aventures de Meg Morgan Hall. Et ça a été le coup de cœur de suite. Nous, les premières histoires qu'on avait lues de Meg Morgan Hall, ça a été vraiment... ça nous a fait mourir de rire. Et avec Damien, on trouvait ça totalement dans l'esprit de la maison d'édition. Et on a voulu très rapidement, déjà le faire participer à Dopututo. Et ensuite, l'idée du livre, c'est vite faite aussi, quoi. Simon Hanselman, il est de Tasmanie. Il a vécu là-bas et il habite depuis un moment maintenant à Melbourne, en Australie. Et voilà, qui a publié aussi récemment. Nous, on a publié 2 livres de lui. Il y en a un tout nouveau là, là au Salon d'Angoulême.
Tu peux juste me dire pourquoi vous avez décidé de le faire venir à Angoulême?
On a décidé de le faire venir parce qu'il y avait le volume 1 qui était 2014. On n'avait pas eu l'occasion on ne l'avait pas en janvier. Et on avait le volume 2 qui était présent là à Angoulême. Et c'était pour nous une occasion de l'avoir avec nous. Et on l'a fait grâce à Kiss Kiss Bang Bang en faisant un French Kiss Tour. Et voilà, c'était juste le rencontrer déjà d'un, en vrai, passer du temps avec lui et lui faire une petite tournée parisienne à Toulouse et à Angoulême.
Ok, tu peux intervenir à tout moment si tu as un truc à dire ou si tu veux, si t'es pas d'accord avec ce qu'il dit. Donc Simon, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter tes livres que tu viens de sortir donc chez Misma?
I call it a stoner dramedy. A combination of drama and comedy. It's very depressing, but also very funny. It's a witch, a cat, an owl. They do horrible things to each other.
Donc il voit son travail comme une sorte de tragicomédie avec des personnages assez barrés, assez malsains. Et en fait, ça reflète beaucoup de ce qu'il a vécu pendant son enfance en Tasmanie, où il y a beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de gens dépressifs, de bipolaires. Lui-même, sa mère, était dealeuse de drogue. Et donc, il a vécu son enfance entouré de toxicomanes.
Drug world and very depressed.
Pourquoi tu as voulu retranscrire cet univers glauque, mais à travers un dessin qui soit plutôt fun, qui soit plutôt joyeux et qui renvoie à l'univers de l'enfance?
En fait, c'est complètement par hasard. Il était à Londres et où il travaillait sur un roman graphique, une histoire d'adolescent qui avait l'air assez sérieuse. Et en fait, il a commencé à dessiner... ce qu'il fait maintenant comme ça par hasard pour se détendre, et puis en fait c'est devenu assez rapidement populaire, et maintenant il dit qu'il se retrouve un peu contraint de continuer à faire ça parce que ça marche bien. Mais au départ c'est vraiment un hasard, il a fait ça sur un coin de table pour se détendre.
Est-ce que tu peux parler un petit peu des personnages qui sont à l'origine de ta série? C'est Meg and Mog, et qui sont issus donc d'un livre pour enfants, et quel est ton rapport avec ces personnages au départ?
Yeah, I grew up on the children's books. You're familiar with them. They're Jan Pienkowski, Polish illustrator. They're very early learning, very simple books. I used to draw those characters in high school, or try and draw, and I just for fun. I liked those books.
Il a beaucoup lu de livres pour enfants quand il était petit, et puis il a été fan d'un auteur polonais, Jan Pieniowski, voilà, qui s'est trouvé devenir quasiment son voisin quand il habitait à Londres. Et donc voilà, il s'est amusé comme ça à redessiner des personnages qu'il avait vus étant enfant, mais juste pour s'amuser comme ça. Il n'y a pas une raison réfléchie, pensée, c'est vraiment par hasard.
Donc t'as dit que tu te sentais un petit peu coincé avec ces personnages maintenant, mais est-ce que c'est pour de vrai ou c'est une blague ?
Well, I have other ideas. I have a science fiction thing I want to do.
Non, il aime beaucoup dessiner ses personnages et il dit que c'est bon. Il a d'autres projets, il a d'autres idées en tête, mais que pour l'instant, il s'est beaucoup attaché à ses personnages et que il se considère pas comme un auteur très inventif. Donc, ça le dérange pas de dessiner les mêmes personnages encore et encore. Et qu'il se donne peut-être encore 5 ans, voilà, à continuer à les dessiner avant peut-être de passer à autre chose. Mais pour l'instant, il s'est vraiment attaché à ces personnages. Il a l'impression de les connaître. Et donc, il est content de continuer à raconter leurs aventures.
Un truc qui m'a frappé dans ces bandes dessinées, c'est qu'il fait toujours des histoires très très courtes. Et en fait, je voulais savoir pourquoi les histoires étaient toujours aussi courtes, même si après, elles forment un ensemble qui est très cohérent. On a plus l'impression que c'est comme une sorte de prisme éclaté, que toutes ces histoires, tous ces instantanés de vie forment une sorte de grand tout. Et bon, j'aime beaucoup cette idée, mais comment c'est arrivé ? J'imagine que c'est pas très calculé.
I worked for many years on the big 244 page.
En fait, il avait commencé à travailler sur un roman graphique de 244 pages qu'il montre à personne et qu'il considère comme son apprentissage, en fait. Et du coup, oui, il est assez d'accord avec l'idée que ces histoires très courtes, des fragments, font partie d'un tout qu'on peut lire dans le désordre, assembler un peu comme on veut, et voilà, que ça permet de créer un univers. Et mais il prépare une histoire complète de 200 pages avec ces mêmes personnages. Donc voilà, il n'est pas attaché spécifiquement au format court, mais il trouve que c'est effectivement aussi plus simple de raconter des anecdotes assez courtes.
Petite question pour toi, Aldon Guillermo. Comment vous gérez un petit peu cette masse d'histoires ? Comment vous la recomposez dans un livre ?
Alors nous, c'est vrai que ce qu'il nous a donné toutes les pages. C'est-à-dire que, déjà pour l'album, on est en coédition avec un espagnol aussi. Donc, nous et l'espagnol, on a tout un tas de pages. Mais dès le volume 1, on avait presque toutes les pages. Donc, on avait aussi les pages du volume 2, par exemple. Et on a décidé. C'est un peu difficile à mettre en forme. Dès qu'on commençait à mettre en forme avec Damien et à chercher une chronologie ou un sens, et bien on s'apercevait que ça ne marchait pas dans la lecture. Et que souvent, quand tu les mettais un peu aléatoirement, et bien ça me fonctionnait hyper bien. Et donc du coup en fait on s'aperçoit qu'effectivement comme dit Simon, il n'y a pas d'ordre chronologique, tu peux les mettre n'importe comment, ça fonctionne. Après on a cherché un peu de faire, nous ce qu'on a fait dans le volume 2 par exemple, c'est qu'on a mis les histoires courtes qu'il avait fait dans Vice au tout début, et après on a mis les histoires un peu plus longues au milieu, et ça finit avec une histoire, je me souviens plus, mais en tout cas on a pas cherché à vraiment construire, et ça marche très bien comme ça. Je sais qu'il ne faut pas chercher à construire en fait avec ces histoires, ça ne marche pas quand tu essayes de se structurer. Plus le hasard fonctionne bien en fait, le hasard fonctionne mieux.
I think you did structure the book quite well.
Il trouve que le livre de Miss Mile, comment ils ont agencé les histoires, c'est fait de, c'est très bien fait, et il pense pas que ça a été vraiment, que c'est uniquement le jeu du hasard. Je pense qu'il y a quand même une réflexion un petit peu derrière ça, mais en tout cas il est très content de la manière dont Misma a structuré ses pages.
Je voulais savoir quel était un petit peu son rapport au livre et comment il était impliqué dans leur conception.
En fait, même si maintenant il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un blogueur, enfin qu'il a fait beaucoup de choses sur le web, en fait à la base il a vraiment fait de l'auto-édition, des fanzines, qu'il distribuait dans son école dès l'âge de 8 ans, 99. Et donc oui, il connaît toutes ces histoires de papier, de fabrication, il est assez familier avec ça. Mais il a décidé pour les éditions européennes, on va dire l'édition française et l'édition espagnole, de faire totalement confiance à ses éditeurs. Et d'ailleurs, il est content du résultat. Après, pour l'édition Fantagraphics, donc, qui est l'édition dans sa langue maternelle, là, il a vraiment pris tout en main. C'est lui qui s'est occupé du design, du choix du papier, tout ça. Et voilà, donc il ne regrette pas du tout d'avoir fait confiance à Misma et à Fulgencio en Espagne, parce que voilà, il a eu de bonnes surprises. Voilà. Notamment l'édition espagnole, où apparemment il y a un pop-up voilà, qui était. Il n'y aurait peut-être pas pensé tout seul, et donc voilà, il aime être surpris par ses éditeurs.
Dans le livre, il y a une page que j'aime beaucoup, qui est une page où le personnage se transforme en plein de personnages connus qui viennent de la culture populaire américaine. Je vois comme une sorte d'hommage à donc des trucs qu'il a dû consommer étant enfant.
Ça l'amusait de faire effectivement son personnage se transformer en différents caractères de la culture américaine, mais c'est pas particulièrement un hommage, même si oui, il dit qu'il aime beaucoup les Simpsons, mais par contre les pierres à feu, il trouve que c'est de la merde. Donc voilà, il a fait cette page-là quand il était défoncé, et ça l'amusait. Ouais. Il ne faut pas y voir une intention cachée.
I was very stoned when I drew that comic again.
Est-ce que tu dessines souvent la BD quand tu es sous drogue?
Yes, I'm always high when I'm drawing. Always.
Il dit que oui, effectivement, il dessine toujours défoncé, parce qu'il travaille énormément, il dessine 18 heures par jour, et donc c'est assez ennuyeux. Donc pour éviter d'avoir envie de sortir de chez lui et pour se forcer à travailler, il fume des pétards. Et comme ça, ça l'aide aussi à se perdre, à se noyer dans le travail et à s'y consacrer pleinement.
Donc j'imagine que pour toi, c'est une sorte de plaisir comme ça, de tout d'un coup de voyager, de faire une tournée et d'aller rencontrer des gens. T'as besoin aussi de cet moment de respiration?
It's work.
Non, il considère que voilà, tous ces voyages, ça reste du travail, c'est une autre sorte de travail, mais c'est du travail, c'est de la promotion. Donc voilà, quand il vient, il se donne du mal, il s'habille en femme pour faire ses dédicaces. Enfin, il a le sentiment qu'il faut toujours faire le show, voilà, donner quelque chose aux lecteurs, enfin, aux gens qui l'attendent. Donc oui, non, pour lui, c'est du travail.
Donc cette idée de faire le show, de se montrer, cet aspect promotionnel, se déguiser pour faire de la promotion, c'est quelque chose quand même d'assez personnel, qu'il y a peu de dessinateurs font ça.
Yeah, I think it's part of my success.
Donc non, il pense qu'effectivement ça fait partie du travail et que c'est aussi grâce à ça qu'il a autant de succès, enfin que ça fait partie de son personnage. Il n'y a pas que les bandes dessinées, il y a aussi ce qui donne à voir en tant que personne. Et il dit qu'effectivement, la plupart des dessinateurs, bon, sont un peu des gens lambda, et il y a beaucoup de gens ennuyeux, et que voilà, il faudrait qu'il y ait plus de gens qui se lâchent et voilà, qui fassent un peu le show, et que ce serait, voilà, la vie serait plus sympa.
Donc tu voudrais que les autres dessinateurs se déguisent tout comme toi et fassent des performances et multiplient les excentricités?
Well, no, not really. I mean, I'm doing it, so you know, I don't want them, like, you know.
Il est content que ce soit lui, enfin, qu'il se distingue à faire ça. Il est content d'être le seul à le faire, et c'est assez flatteur pour lui, je pense.
Eh ben, merci Simon.
Ah, merci.
Merci Eldon Guillermo.
Bah de rien, merci.
Et ben merci Renaud pour cette traduction.
C'était un plaisir.
Salut. Just lose their minds. Ah! Vous écoutez Radio Campus Paris 93.9, c'est toujours le gratin. Voilà, donc là on vient d'écouter Screaming Jay Hawkins, I Hear Voices. On était en compagnie de Simon Hanselman et de son éditeur Eldon Guillermo. Donc la maison d'édition c'est Misma et je rappelle deux volumes de la série Meg Mogenhall chez cet éditeur. Donc informations, réécoute, podcast, etc. c'est sur le site radiocampusparis.org, page le gratin, ou sur mon blog asso-artichaut.blogspot.com. Voilà, c'était la fin de cette série d'émissions consacrées à la bande dessinée et au Festival d'Angoulême. À bientôt, salut !